faut pas oublier que ils avaient 18-20 ans, j'avais 22. On démarrait tous. Je n'avais aucune limite de moyens ni d'imagination pendant 12 ans. Philippe Aki m'a rien dit d'autre que « débrouille-toi pour que tes photos déplaisent aux parents ».
Fais ce que tu veux, mais débrouille-toi pour que ça déplaise aux parents. C'était la consigne qu'avait reçue Jean-Marie Perrier, l'auteur de la fameuse photo de famille de Salut les copains. Car oui, en 62, Salut les copains, en termes de transgression, c'était l'équivalent de Planète Rap dans les années 2000. Lui, en 62, il n'était pas encore là en France, non.
Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant.
Vous aviez Dave, 18 ans. Bonjour Dave.
Oui, j'avais 18 ans.
1962. 60 ans de carrière, Dave. Plus de 6 millions d'albums vendus. Des
non,
tubes inoubliables.
15.
Oui, oui. Pas 6, non, 15.
Non, pas 6.
15 millions.
Non, mais parce que j'ai transformé les 45 tours en 4
habile, ça c'est bien joué.
Oui, hollandais. Quoi.
Hollandais. Des tubes inoubliables comme. Calmez-vous, Quentin.
Victor Hugo, le mec qui connaît tout.
Celui qu'on a chanté en duo en coupant des tomates, j'y reviendrai. Ou encore le sublime.
Danser maintenant, tout l'été, aimez-vous sur le sable.
Que fredonne chaque matin Quentin sous la douche en se savonnant, et plus quand il a le temps. Et puis Dave, même si vous n'étiez pas là au lancement de Salut les copains, vous avez vécu cette période incroyable pour la variété française, et plus tard en 96, vous avez même présenté Salut les copains, nouvelle version, c'était sur TF1. Ensemble, on va revenir sur ce qu'on a aussi appelé les années yéyé. Mais déjà, vous Dave, en 62, vous faisiez quoi à part avoir 18 ans?
J'étais en train de préparer mon baccalauréat.
Quoi. Ouais,
j'ai fait au Pays-Bas, ça s'appelle comme en Allemagne, le gymnasium. Donc 20 heures de latin et de grec et 12 heures de langue moderne plus l'hollandais. Tout ça pour chanter Vanina, c'est pas vraiment la peine.
Mais à l'époque, vous étiez déjà musicien, vous pensiez déjà musique ou vous pensiez faire une carrière
J'ai commencé, en fait, mon père était d'origine juive, mais qui est devenu protestant bien avant la guerre, donc c'était pas Hitler. Et donc, on était 6, il y avait deux frères et une sœur, et il n'y avait que mon père et moi qui étaient au temple, comme on dit aussi quand on parle. Hein. Et on avait un pasteur qui était une femme, très belle, brune, et qui était, donc, comment on appelle les trucs sur lesquels ils sont, la hauteur, la chaise.
La chair.
La chair, et je voulais être à sa place. Et c'était un narcissisme total. Je voulais juste qu'on m'écoute et que c'est moi qui parle. Et donc là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis mis à apprendre à chanter. Et j'ai toujours chanté. Là.
Heureusement, vous n'êtes pas devenu prêtre. Que reste-t-il?
Non, j'en suis assez loin. Je vous en
prie. Oui, assez loin, c'est vrai. On enchaîne. Que reste-t-il de l'émission et du magazine culte Salut les copains? Quel regard Dave porte-t-il sur cet âge d'or de la variété française dans la bande Salut les copains? Qui était vraiment sympa? Qui l'était moins? La plupart étant décédés, sentez-vous libre, cher Dave, de nous dire la vérité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans Zoom Zoom Zen, 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre temps, et même le vendredi, le temps jadis. Aujourd'hui, dans Zoom Zoom Back, direction 1962, Chubby Checker sortait Let's Twist Again. Notre invité, lui, venait d'avoir 18 ans. Et à ce propos, par devoir d'honnêteté vis-à-vis de nos auditeurs, je me dois de signaler que je connais un tout petit peu notre invité, puisque nous nous sommes retrouvés l'espace de quelques jours en été chez un ami commun qu'on ne citera pas, mais que Quentin imite parfois sans le vouloir, parce que visiblement, il le tient mieux que Pascal Obispo.
Tu es mon millésime. Ma plus belle année.
Une confusion, Marc-Olivier Fogiel, Pascal Obispo, peut-être liée au fait que tous les deux passent beaucoup de temps au Cap Ferret. Je sais pas. Or, c'est là qu'avec Dave, nos chemins se sont croisés, ça s'est passé précisément comme ça, je m'étais levé tôt, j'étais dans la cuisine, je me beurrais une tartine, et inconsciemment, comme je savais que Dave était dans cette maison, je pouvais pas m'empêcher de siffloter.
Ah, pas mal, pas mal.
Encore un con qui va siffler Vanina toute la semaine, telle fut la première pensée de Dave lorsqu'il me vit. Et ça n'a pas raté, j'ai passé la semaine à siffler comme un con ce tube que pour le coup maintenant vous pouvez qualifier d'iconique. Dave, merci d'être avec nous cet après-midi, je dirais, malgré tout.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Alors, on va évidemment revenir sur l'époque. Salut les copains, juste le temps de vous présenter mes précieux collègues, à commencer par celle qui va nous entraîner à Londres. Car 62, c'est évidemment d'abord les chaussettes noires, mais de manière plus anecdotique, c'est aussi les Rolling Stones.
Oui, parce qu'en 1962, ils donnent leur premier concert à Londres. Alors, les Rolling Stones ne s'appellent pas encore réellement comme ça. Tous les membres ne sont pas encore présents, mais cette soirée a marqué un tournant dans leur histoire. Je vous la raconte en fin d'émission.
Face à vous, Dave, il est donc le sosie vocal involontaire de notre ami Marc-Olivier Faugiel.
Oui, j'ignorais.
Cadeau du ciel qu'il laisse ne lui permet pas de gagner sa vie. Alors, chaque vendredi, il se balade dans les archives de l'INA pour nous concocter un grand récap sonore de l'année qui nous intéresse.
La fin de la guerre d'Algérie, l'affaire des missiles de Cuba, Marilyn qui chante pour Kennedy et Jeanne Moreau pour Jules et Jim. Mmh. Retour en 62 avec des archives.
1962 complètement aux archives, mais aussi dans la discothèque de Camille Diao qui viendra nous parler d'un tube de Johnny qui fait encore pleurer Quentin aujourd'hui, car il aurait tant voulu lui aussi être l'idole des jeunes. En fin d'émission, Harold Barbet viendra nous dire ce qu'il préfère, le Hellfest ou Salut les copains, mais d'abord. Direction donc 1962, lancement du magazine culte de toute une génération, Salut les copains. Et Dave, vous, quand vous arrivez en France, un peu plus tard, ça représente quoi, Salut les copains ?
J'avais envie d'être sur cette photo, mais je n'y suis pas parce que je suis pas encore là quand il a fait cette photo. Et évidemment, je les ai tous plus ou moins bien connus. Je ne peux pas ne pas faire un petit salut à ces gens parce que c'était quelqu'un d'extrêmement sympa. Ça fait exactement 25 ans qu'il a... J'ai failli dire disparu. Et c'était même sur scène, il m'arrive à dire aux gens, arrêtez de dire que les morts ont disparu. Parce qu'ils sont encore dans votre tête et votre cœur.
Ils sont là.
Dites qu'ils sont morts, décédés, mais pas qu'ils sont partis. Donc, c'est Jérôme, salut, peut-être qu'il m'écoute. C'était un mec très sympa. Puis, oui, on connaissait les gens. C'était, pour ça, c'était bien, quoi. C'était un grand club de gens. Quand on commence à te dire, si Julien Clerc, à l'époque, te disait bonjour, après 69, quoi, parce que là, il a commencé, tu dis, ça y est, je fais partie de la bande, quoi.
Ça y est.
C'est sympa.
Il fallait faire partie de cette bande, il fallait côtoyer ces gens-là, sinon on n'était pas dans le coup.
C'est des confrères, quoi. Mais c'est normal, c'est comme vous autres animateurs, vous adorez entre vous.
D'accord, tout est dit. Et il y avait vraiment une bonne ambiance, on voit la photo, bon, la photo elle reste dans les esprits, tous ces gens-là que vous avez côtoyés pour la suite, il y avait vraiment une bonne ambiance entre eux, c'est des gens qui se voyaient en dehors des, j'imagine, des émissions radio ou télé, ou pas du tout, il y avait plus de rivalité qu'autre chose.
Si, quand même, on vivait quand même tous à, je ne veux pas exagérer, mais au moins à 130 à l'heure, parce qu'évidemment, mais on travaillait énormément et les tournées créaient des liens quand même. Je veux dire, moi, je me suis foutu de la gueule, comme on dit en bon français, de Dick Rivers jusqu'au jour où je l'ai rencontré dans une tournée et que je l'ai trouvé sympa, bien, marrant. Donc c'est bien de connaître ses confrères, c'est un côté sympathique. Puis il y a aussi qui sont totalement cons.
Quelques noms peut-être.
Non.
C'est
assez dit.
Cette photo, on la voit bien avec l'échelle, Johnny Hallyday. Et il y a quand même une personne un peu plus âgée au milieu de tous ces jeunes, c'est Serge Gainsbourg qui est sur cette photo. Est-ce que Serge Gainsbourg faisait partie de la bande ou on l'a mis là parce que...
Mais moi, je sais pas. Moi, justement, j'y pense parce que le 4 mai de cette année, j'ai eu mes 80 ans. Et je me souviens quand je faisais des télés à l'émission des années 70 et que je voyais un chanteur de 80 ans. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux con? Tu vois, ils doivent dire ça maintenant quand je vois la télé, tu vois. Mais il n'y a pas tellement de problèmes d'âge, tu vois. À part des gens qui sont arrivés très tard. Je pense à Charles Dumont, par exemple, des gens comme ça qui sont arrivés très tard. Sinon, c'était quand même plus ou moins les mêmes générations. Là j'étais avec Sylvie Vartan il y a deux jours. Elle est née en 44, quoi. J'espère qu'on ne veut pas de le dire, mais... Ça se voit un petit peu.
On vous en voudra pas.
ça représentait quoi pour les jeunes à l'époque, Salut les copains ?
Ah, mais ça, je ne peux pas trop le dire, mais je pense que moi, je vis avec quelqu'un depuis 53 ans qui est l'auteur de mes chansons et qui était vraiment Salut les copains. Ouais. À partir du moment qu'il y a eu François Jardy sur la couverture. C'est le sixième numéro, parce que le premier, c'est évidemment Johnny, puis il y a Sheila, etc. Parce que le plus grand vendeuse à l'époque, c'était Sheila. Hein. C'était ni Vartan, ni Sheila. Hein. En fait, c'est trois princesses. François Jardy, Sheila et Sylvie Vartan, ils n'ont pas connu la vie, quoi. À 18 ans, ils sont devenus des stars. Ouais. Et c'est incroyable. Sur un plan sociologique, c'est très étonnant, quoi. Et moi, Drucker m'a dit un jour, on était dans une voiture en rentrant de Lille où j'avais fait une émission, il dit, les gens te donnent 10 ans de moins parce que ton premier succès en 1974, ils croyaient que tu avais 20 ans. Et j'en avais 30. Donc tu as quand même déjà un petit peu
Moi aussi, sans réfléchir, j'aurais dit 20 ans aussi.
Parce que tu m'as vu nu.
Ne revenons pas sur ces vacances au Cap Ferret. Restons concentrés dans l'instant. On continue de se balader dans les années Salut les copains avec Dave, juste après ce qui sera certainement demain soir un incontournable de la soirée d'anniversaire de notre rédac chef Cyril Lacarrière, The Isley Brothers, Twist and Shout sur un thème. Je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître.
Et j'entends siffler le train.
Enfin, oui, sauf Quentin.
Et j'entends.
Quentin, vous avez quoi? Vous avez
34 bientôt.
34 ans, ressenti 87.
Bah, j'adore cette chanson.
Oui, bon, je sais, vous aimez toute cette époque-là. Zoom Zoom Back spécial Salut les copains cet après-midi. SLC, le magazine et l'émission de la génération des yéyés. La plupart d'entre eux étant quand même morts, on a invité cet après-midi Dave, qui lui est en pleine forme. Et lui, Dave, vous n'avez pas fait partie de la vague yéyé, vous êtes arrivé après, mais vous avez quand même baigné dans ces années Salut les copains. Parmi les figures majeures, on en a cité quelques-unes, il y a Sheila, Sylvie Vartan, Johnny, Claude François, Adamo, Eddie Mitchell. Vous les avez tous côtoyés ?
Ouais. Ouais, j'ai des souvenirs avec beaucoup de gens. Je me souviens notamment d'une soirée d'une boîte à la mode à l'époque qui s'appelait Élysée Matignon, où il y a une artiste, une actrice que je ne citerai pas. Et j'ai dit, je commence une phrase. Non, c'est Johnny Hallyday, parce que j'étais avec Johnny qui dit à la fille, t'es toujours au même, et moi je suis dit au même prix, et ça le fait rouler sous la serpe de Tamlerie. Mais ce qui était le plus drôle, c'est qu'il dit, il faut absolument que je raconte ça à Sylvie. Et elle était plus avec depuis longtemps. Donc j'ai dit, tiens, Sylvie est quand même encore dans sa tête.
Ah, hein. Toujours dans sa tête.
Ouais,
oui.
C'est mignon.
Ouais, c'était chou. Derrière cette
mais Johnny, j'ai adoré le rencontrer parce que c'est quand même. Puis il y a un idole comme ça, quoi. Et c'était vraiment quelqu'un qui. Il y avait un truc.
Et artistiquement, parce qu'on a compris, Dave, vous ne pouvez pas non plus trop balancer humainement, il y en a que vous aimiez, d'autres un peu moins, mais artistiquement, qui vous a le plus épaté dans cette bande qui faisait partie de la génération Salut les copains ?
Mais moi, c'est surtout les voix auxquelles je suis sensible. Donc, je me souviens d'un gros succès de Quelqu'un d'après a disparu pour revenir après, qui est Herbert Léonard, qui chante Pour le plaisir. Et il avait un timbre de voix assez exceptionnel. C'est des choses comme ça qui te frappent, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai des problèmes avec le rap. On me dit que, évidemment, je suis un vieux con, mais je ne suis pas sensible parce que j'aime les mélodies. Et dans la mélodie, j'aime des mélodies qui surprennent à un moment. Des mélodies dites téléphonées, comme on dit dans notre jargon professionnel, ça m'embête, parce que je veux bien être surpris. Et le mot surprise, comme dans le couple, vous verrez un jour, c'est très important.
C'est une époque où...
sa femme et son mari.
C'est une époque où les femmes avaient réellement leur place. Les jeunes chanteuses, vous parliez de toutes ces idoles quand même, il y avait énormément de femmes.
Il fut un temps où les gens qui pensaient connaître le décor, le coulisse surtout du métier, qu'il fallait être une femme.
Ah,
c'était
une jeune fille, il fallait être jolie, etc. Et on pensait qu'un chanteur devrait être beau. Alors, je sais pas, le premier pas, il n'est pas très beau. Hein. Je n'ai pas cité son nom.
Vous n'avez pas cité son nom, mais le connaît.
Mais c'était encore très marketé sur le physique, du coup. Il y avait encore beaucoup ce...
Absolument. Et il y avait énormément plus, et je suis mal placé pour en parler, mais beaucoup d'adaptations, beaucoup de chansons d'origine américaine, anglaise, anglo-saxonne, comme Vanina, qui est américain, quoi.
Vanina, la version originale, elle date de quand ?
De Vanina ?
Oui.
Je pense que c'est 59, Del Shannon, Runaway. As I walk along, I wonder. Après, il faut payer.
Ah oui, ça y est. C'est la première fois que je fais le rapprochement. Quentin ?
Peut-être un peu de votre histoire, Dave. Comment vous vous êtes retrouvé en France ? Vous arrivez en France...
Par les canaux, il est arrivé.
En 66. Comment ça se passe quand vous arrivez en France ?
Ben, j'étais inscrit, j'ai dit bien inscrit à la fac de droit et après à la fac de langue.
Ouais.
Et j'y allais pas parce que je commence à gagner ma vie en chantant. Donc je me couche souvent vers 4
heures
du matin.
Où ça, dans des bars, dans des scènes?
Oui, des trucs comme ça, oui, dans des crêperies, des pizzerias. Parce que pour ceux qui veulent faire de la manche, faites des crêperies, des pizzerias parce que les clientèles changent plus souvent que dans un restaurant.
Ah, c'est vrai que c'est malin. Ah oui, ça plaît vite.
Bon leçon.
Et comment on passe du restaurant à la bande de Salut les copains?
Mais c'est-à-dire que moi, je chante dans une crêperie dans le riche entrée des arts à Paris, et c'est là où on me parlait de Saint-Tropez. Moi, je connaissais en hollandais, je connaissais Cannes, Menton, mais pas encore Saint-Tropez à l'époque. Ça commençait, grâce à Brigitte Bardot surtout, et on me dit, va à Saint-Tropez. Et donc, c'est là où je commençais à avoir des premiers gens du showbiz qui me disaient, toi, tu pourrais faire des disques. Mais ça ne m'intéressait pas.
Eddie Barclay ?
Eddie Barclay surtout.
C'est Eddie Barclay qui vous a dit, on va faire des disques ?
Et quand finalement, moi, j'étais content avec. Je suis parti avec un Hollandais dont j'étais éperdument amoureux, mais qui n'était pas du tout le même mœurs que moi, suivi mon regard. Et donc, à un moment, j'ai dit, écoute, je n'en peux plus. Donc, j'ai dit, imagine-toi que tu dors à côté de la plus belle fille que tu connais, que tu tentes de toucher, tu n'en peux plus, quoi. On peut dire des choses comme ça.
Mais on peut tout dire sur France Inter, ici, c'est très libre. Attention, c'est le moment de l'émission, on doit rendre à César ce qui est à César, ou plutôt, en l'occurrence, à celle qui prépare la séquence qui suit, à la place de celui qui est censé la préparer. Oui, Quentin, saluons Samia Jedi, qui, Alina, vous mâche pas mal le travail et c'est un euphémisme, hein, franchement. Quentin, retour donc grâce à Madame Jedi, c'est comme ça qu'on l'appelle ici.
Il y a Émilie Lacau, il y a Viviane Lefebvre.
Étonnamment, c'est ce nom-là que je retiens.
Oui, ben voilà.
Madame Jedi. On retourne en 1962 dans les archives de l'INA.
Le 18 mars 1962, la fin d'une guerre.
À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, La tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être.
La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous.
Et référendum en France et en Algérie pour ratifier les accords d'Évian. En gros, êtes-vous pour ou contre l'indépendance de l'Algérie ? Ce fut oui à 99,72%. Le 5 juillet 62, après 8 ans d'une guerre qui a fracturé le pays, 500 000 morts, dont 400 000 Algériens, l'Algérie est indépendante, scène de liesse à la Casbah.
Nous sommes actuellement tout en haut de la Casbah. Et une cérémonie vient de se dérouler devant nos yeux. Le drapeau algérien vient d'être hissé sur un mât, tandis que l'hymne algérien était chanté.
Mais la fin de la guerre d'Algérie, c'est aussi l'exode des Européens d'Algérie, ceux qu'on appelle les Pieds Noirs, la mort de milliers de Harkis qui avaient combattu aux côtés de la France, un pays entier à reconstruire et un traumatisme entre les deux pays qui laisse encore des traces. Le 15 octobre, en revanche, on passe très très près d'une guerre nucléaire.
Le monde a vécu une semaine dramatique. En mission de surveillance au-dessus de Cuba, les avions U-2 américains photographiaient la construction et l'établissement de rampes de lancement de fusées dont l'existence ne pouvait plus passer pour une mesure défensive. Dans un discours imprévu, le président Kennedy dénonçait le péril. Ces bases, disait-il, ne peuvent avoir d'autre raison que de fournir une force de frappe nucléaire dirigée contre nous.
Le gouvernement américain découvre plusieurs rampes de missiles nucléaires soviétiques installées sur l'île de Cuba, à moins de 200 km des côtes américaines. C'est le climax de la guerre froide qui se terminera heureusement par un accord entre Kennedy et Nikita Khrouchtchev, évitant une troisième guerre mondiale qui aurait pu être, elle, nucléaire. Heureusement, quatre garçons avec une coupe au bol sortent un peu d'amour pour leur premier single. Un peu d'amour aussi sur un paquebot luxueux qui fait son premier voyage.
3 février 1962, France a quitté le Havre pour sa première traversée vers New York. Gagnant la haute mer, le navire long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes atteint rapidement sa vitesse de croisière. Si certains passagers apprécient malgré le vent le soleil des ponts promenades, les autres préfèrent à l'abri des ponts couverts, entourés des attentions du personnel, se livrer au confort des chaises longues ou aux joies du footing.
En France, c'est l'agitation politique. De Gaulle est critiqué pour sa gestion de la sortie de la guerre et l'indépendance qu'il a accordée à l'Algérie. Le 22 août 1962, il échappe miraculeusement à un attentat.
Un attentat a été dirigé contre le général de Gaulle aujourd'hui en fin d'après-midi. Le président de la République, accompagné de Madame de Gaulle et de son gendre, le colonel de Boissieu, regagnait Colombey à l'issue du Conseil des ministres lorsque sa voiture a essuyé plusieurs rafales d'armes à feu qui ont brisé la vitre arrière et crevé deux pneus. Aucun des occupants de la voiture n'a été atteint. Un motocycliste de l'escorte a reçu 2 balles dans son casque, mais n'a pas été blessé.
On parle de miracle. Bonne pub pour Citroën, au passage, avec cette DS criblée de balles, mais assez résistante pour garder le général et Yvonne de Gaulle sains et saufs. Ça ne l'arrête pas, le général de Gaulle. Le 28 octobre, référendum et révision constitutionnelle.
Dans les 38 000 communes de France, 27 millions d'électeurs ont choisi entre le oui que demandait le général de Gaulle et le non que soutenaient ses opposants. Que ce soit dans les villages de province ou les quartiers de la capitale, Françaises et Français ont eu à trancher au fond de leur conscience le débat ouvert entre les partis et le chef de l'État sur l'élection au suffrage universel du président de la République.
On votera désormais directement pour élire un président, et ça, on lui doit. On traverse l'Atlantique une nouvelle fois pour une chanson d'anniversaire surprise, le 19 mai 1962.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Marilyn Monroe chante pour Kennedy dans une robe de soie moulante, beige, transparente, avec 2500 strass qui donne une impression de nudité. L'image fait le tour du monde, mais le 4 août, soit à peine 3 mois plus tard...
Et j'en viens ainsi à une nouvelle navrante qui nous a frappé de stupeur cet après-midi. Une des femmes les plus belles du monde, une des plus adulées, Marilyn Monroe, s'est suicidée dans sa somptueuse demeure de Los Angeles. Mais comment cela est-il arrivé ? À vous, Jacques Salbert.
C'est par la radio ce matin que les Américains ont appris avec stupeur le suicide de Marilyn Monroe. L'idole du cinéma américain et mondial pendant de nombreuses années, avait mis fin à ses jours en absorbant une dose massive de barbiturique.
Alors, véritable suicide ou mort suspecte, le débat existe encore. Mais la vie continue, le cinéma aussi, et sur France Inter, on parle d'un film.
Monique Berger a un nouveau film de François Truffaut, et je crois un bon.
C'est un très bon film, il nous fut présenté, et c'est le troisième, il nous fut présenté hier. Après les 400 coups tirés sur le pianiste, voici donc Jules et Jim, qui est sans nul doute celui qui possède le plus de qualité.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets.
Et c'est sur la voix de Jeanne Moreau que je referme ce complètement aux archives.
Qui cite au manjolin, elle avait des yeux
Dave. Je vous pose la question, le cinéma à cette époque, c'est aussi la nouvelle vague en France. Vous avez des souvenirs de ces films en arrivant des Pays-Bas? Vous alliez au cinéma?
Pas beaucoup, parce que j'avais pas beaucoup de sous. Donc, oui, c'est une bonne raison, hein, évidemment. Mais bon, il y avait déjà un petit peu de films sur le télé noir et blanc. Donc, oui, c'est quand même en gros ce qui se passe. Jules et Jim, je l'ai vu à Hilversum. Donc, je l'ai vu.
Et vous avez marqué ce film, Jules et Jim?
Ah oui, ouais, ouais, il a fait quelque chose. Ah oui, complètement, oui.
Et Marilyn Monroe?
Ben, Marilyn... C'est plus penché Paul Newman.
Oui. L'essai de Paul Newman a été plus dur, effectivement, à encaisser, effectivement. Dave est avec nous cet après-midi dans Zoom Zoom Zen, spécial Salut les copains. Alors justement, comment c'est venu cette idée, Dave, de présenter une nouvelle version de Salut les copains? C'était en 96 sur TF1. Alors là, je nous file un coup de vieux à tous, parce que 96, c'était presque il y a 30 ans. Donc à l'époque, on était déjà nostalgique de cette époque Salut les copains.
Eh oui. Les gens ne savent pas trop, mais nostos veut dire retour, et algie, évidemment, ça veut dire souffrance. Donc...
Aïe, aïe, aïe.
Oui, c'est dur. Oui, oui. Oui, mais c'était devenu, c'était un hebdomadaire, de mensuel, c'était plus de millions qui vendaient, c'était incroyable. Le succès de Salut est quand même exemplaire, et c'est très très rare à ce point-là, quoi. Je veux dire, grâce aux jeunes qui ont tout acheté, ça c'est le copain, oui, ça c'est vrai.
Mais c'était, bah c'était vraiment des stars à l'époque? Non, mais il y avait une folie, on parle de la Beatlesmania par exemple, etc. Mais il y avait une folie autour justement des stars de Salut les copains.
Ah ben oui, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait une petite différence entre les super vedettes et les vedettes, tout ça. Il n'y avait pas encore de stars, on parle encore français à cette époque-là.
Oui.
Mais oui, il y avait ça. Oui. Parce que les gens, pendant très longtemps, et encore il y en a qui commencent à le croire, c'est que comme, par exemple quand on voit un artiste à la télé, que ça lui met plein de beurre dans les épinards, et bien non, rien du tout, même pas de la margarine.
Rien du tout. Et c'est l'argent, il se faisait sur les ventes de disques, sur les tournées.
Exactement. Et le disque, il faut quand même pas oublier, parce que moi, je suis bien concerné que le disque est devenu un objet totalement. Ça n'existe plus, quoi. Le disque, c'est. Mais les gens téléchargent, mais ils n'achètent plus de disque. Moi, je reçois le top 200 toutes les semaines parce qu'ils pensent que j'ai encore. J'ai fait faire une émission de télé, donc je suis sur Mélodie.
Ah.
Pour des gens de cheveux gris. Mais c'est vrai que c'est fini, quoi. C'est obsolète, un disque.
Mais pourtant, la vente des vinyles se porte bien.
Mais non.
L'objet.
Mais non, bien. Vous savez, pour me donner un exemple exceptionnel, je vais parler de moi, mais je vends 40 000 disques par jour avec Vanina. Par jour.
Combien de disques par jour?
40 000 disques par jour.
40 000 disques par jour?
Par jour. Oh, aujourd'hui, un disque d'or, ce n'est pas un million, c'est 50 000.
Ah oui.
Ce n'est plus du tout
ouais,
la même
chose. Oui, c'est pas comparable les chiffres.
Non, non, le disque existe de nouveau, mais c'est un objet d'antiquité.
Vous regardez vos écoutes aujourd'hui sur Spotify, sur Apple Music, sur les plateformes, vous savez? Un petit peu?
Non, pas trop. Je suis un homme de chiffres pour ce qui concerne l'argent.
Mais, mais pas les écoutes?
Non, pas trop, mais on sait quand même. Je veux dire, là, je viens d'enregistrer. J'ai écrit un livre quasiment seul qui s'appelle « Comment on passe le temps heureux de vous » d'après une de mes chansons. Et on m'a demandé de faire une version pour Spotify. Parce que maintenant, les chauffeurs de taxi autres écoutent.
Ah, ils écoutent le livre comme ça.
Écoutent le livre, oui.
Des premières fois marquantes, il y en a eu quelques-unes en 62, déjà certainement pour Dave qui avait 18 ans et qui ne devait pas jouer au Scrabble toutes les nuits. Mais 1962, c'est aussi le premier concert des Rolling Stones, qui s'appelait même pas comme ça encore à l'époque. Manon nous raconte ça juste après The Sacred Souls, Lucid Girl sur Inter. So many times. She's a lucid girl. Zoom zoom back direction 1962. Cet après-midi, Dave, notre invité, était à peine majeur. Un nouveau monde s'ouvrait à lui. Et pendant ce temps-là, Manon, à Londres, un petit groupe de rock encore underground donnait un concert.
En plein mois de juillet 1962 à Londres, un groupe s'apprête à donner son premier concert au club de jazz Le Marquis sur Oxford Street. C'est the place to be pour la nouvelle génération de musiciens anglais qui veut se faire un nom. Cette reprise de Johnny B. Goode est signée Mick Jagger and the Rolling Stones. C'est le nom du groupe qui se produit ce soir-là devant des centaines de personnes. Ils font des reprises de tubes de rhythm and blues de l'époque car ils n'ont pas encore de titre à eux. Sur la scène, il y a donc un certain Mick Jagger entouré des guitaristes Keith Richards et Brian Jones, du pianiste Ian Stewart, du bassiste Dick Taylor et du batteur Mike Avery. À la base, ça ne devait pas être eux sur la scène ce soir-là. Ils ont été appelés à la dernière minute suite à un désistement. Car en 1962, le groupe star du Marquis s'appelle Alexis Corners Blues Incorporated. Ce sont eux qui doivent jouer ce soir-là. Sauf qu'ils sont appelés par la BBC pour donner une prestation en direct à la télé. Il y a donc une place dans le line-up de la soirée. Brian Jones va convaincre le propriétaire du club de le laisser jouer avec son groupe. Il accepte et Jones appelle le journal local Jazz News, tout excité pour annoncer la nouvelle, pour annoncer leur concert. Sauf qu'on lui demande le nom de son groupe. Problème, ils en ont pas encore. La légende raconte qu'il aurait pris le premier vinyle face à lui à ce moment-là, que c'était The Best of Muddy Waters, et qu'il aurait donné le nom de la première chanson, Rolling Stone, avec un N donc. I went to my baby's house and I sat down on her step. Ce premier concert va marquer un véritable tournant pour le groupe. Keith Richards, Mick Jagger et Brian Jones s'emménagent ensemble pour commencer à véritablement faire de la musique. En fin d'année, ils cherchent un bassiste et ils rencontrent Bill Wyman dans un autre club de jazz de la ville. Plus tard, Wyman dira au sujet de leur rencontre « Ils ne m'aimaient pas, mais j'avais un bon ampli et ils avaient sacrément besoin d'ampli à l'époque. Alors, ils m'ont gardé. » Le mois d'après, ils se mettent à la recherche d'un batteur. Ils ont l'idée de proposer le job à Charlie Watts, qu'ils connaissent déjà bien, puisqu'il joue souvent au Marquis. On est début 1963, le groupe Rolling Stones, avec un G, est né. En mai, il signe avec la maison de disques Decca, leur manager s'appelle Dick Rowe, et il est connu comme celui qui a refusé de signer les Beatles. Bah oui, parce qu'en 1963, c'est le groupe de John Lennon qui a le vent en poupe avec son premier album, Please Please Please. Love, love. La Beatlesmania commence et ils font donc trouver un moyen pour les autres groupes anglais de se différencier de ces enfants sages du rock à la coupe au bol aiguisée. Les Rolling Stones disent donc adieu aux costumes cravates, ils se font pousser les cheveux et sont marketés par leur maison de disques comme des bad boys, les anti-Beatles. C'est à partir de là que leur fausse rivalité a commencé, je dis fausse, car en septembre, les Rolling Stones sortent ce morceau. I wanna be your man. Be Your Man, qui est considéré comme leur premier succès à sa sortie. Il se classe à la 12e place des charts britanniques. Et cette chanson a été écrite par qui ? Eh bien, par John Lennon et Paul McCartney. La rivalité entre les deux groupes a été un véritable coup de com', alors qu'ils étaient amis dans la vraie vie. Ils évitaient même de sortir leurs albums en même temps pour ne pas se faire de concurrence inutile. Brian Jones a aussi repris certaines chansons des Beatles en solo, bref, de la com'. Ce même Brian Jones, qui a connu un destin assez funeste. À la base, il était le leader du groupe, c'est donc grâce à lui qu'ils ont donné leur premier concert. C'était celui qui avait le plus les crocs. Mais petit à petit, il s'est fait exclure du trio de tête qu'il formait avec Keith Richards et Mick Jagger. L'amitié entre les deux était beaucoup trop forte et surtout, leur entente musicale surpassait tout. Ce sont eux qui composent les meilleurs morceaux du groupe grâce à leur duo. Les Rolling Stones explosent en 1965 avec leur second album et leur tube iconique. C'est à à partir de là que les Rolling Stones se font connaître dans le monde. Ils enchaînent albums, concerts, tournées américaines. La drogue fait aussi partie de leur vie, surtout de celle de Brian Jones. Il est exclu du groupe en 1969 car il est trop souvent drogué et alcoolisé. Il n'assure plus les concerts et les enregistrements. Il va mourir quelques semaines plus tard, noyé dans sa piscine. Aujourd'hui, Keith Richards dit qu'il n'est plus ami avec Mick Jagger, mais que ça reste son frère. Malgré leur âge, malgré leur brouille, les deux quand même ne se quittent pas. Leur dernier album date de 2023 et ils enchaînent encore les concerts. Selon Rock and Folk, ils prennent tout de même une petite pause cette année pour mieux revenir l'année prochaine. Dave, je vais vous poser un peu la question ultime, mais est-ce que vous êtes plus Beatles ou Rolling Stones?
Voilà. Il a eu 4 minutes pour y réfléchir.
Exactement.
Non, mais je vous ai écouté évidemment, et il faut faire attention aux ceux qui ne font pas la différence entre Keith Richards et Cliff Richard. Parce que les plus grosses vedettes de cette époque-là, c'était Cliff Richard.
Cliff.
Et c'était pas Keith Richard, et ça se ressemble. Il faut lire le livre de Keith Richard, parce que vraiment, il raconte
l'autobiographie.
Il parle même de la taille de la...
Life.
Oui, il parle de la taille de...
du cerveau.
De son copain.
Mais du coup, Beatles ou Rolling Stones?
C'est tellement différent. C'est vrai. Moi, j'ai un grand passage de blues de ma vie, donc ce qui est attiré parce qu'ils font certaines chansons, mais quand même, sur un plan mélodique, c'est quand même des chansons de Lennon McCartney qui me blessent.
Et qui restent. Et pourquoi vous n'êtes pas lancé dans le rock à cette époque? Vous êtes pile dans cette époque du foisonnement du rock.
Ah, mais je m'appelle à l'époque Dave Rich. C'est quand j'ai signé avec Eddie Barclay le 7 décembre 1967, qui m'a dit Dave Rich, Rich, peut-être pas tout de suite. C'est drôle, c'est-à-dire avait raison, donc je suis resté Dave. Mais avant, j'avais un groupe, Dave Rich, et comme j'étais inscrit à l'université, j'avais donc un smoking, je chante en smoking, et le groupe s'appelle The Millionaires. Donc Dave Rich and The Millionaires.
The Millionaires.
Et c'était que du rock.
Que du rock, donc vous avez commencé par le rock. Quentin, vous avez pris une guitare, pourquoi faire?
J'ai pris une guitare parce que une de vos chansons préférées, c'est Vanina.
Ah c'est Vanina, ma chanson préférée.
Est-ce qu'on ferait pas un guitare-voix Vanina?
Ah, ça serait incroyable. Un guitare-voix Vanina?
Bah écoute, je veux bien essayer pour vous.
Connaît 4 accords, peut-être que ce sont ceux de Vanina, on va voir.
Ah, il joue.
Loin de toi.
Oui, là, c'est la mineure. Moi, c'est un peu plus haut, mais on peut le faire.
Il a reconnu le la mineure. Il est l'oreille absolue.
Non, je suis guitariste.
On le fait un peu plus haut? On le fait plus haut?
Non.
Non,
mais pense à Mathieu.
C'est toi qui chante. Moi qui chante Vanina, moi j'écoute. Oui, c'est toi qui chante. Tu la connais, non? Tu la connais,
oui,
Vanina?
Oui, je m'en souviens, mais je le fais quand même au moins 4 fois par mois, sinon je suis dans la merde. Financièrement, je parle.
Évidemment.
Je me demande, toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. 3, 4, Vanina, rappelle-toi, que je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Je pense qu'il ne s'est pas payé. Monde. C'est tôt pour moi. Et toi, si loin de toi, et le monde, elle n'existe pas si tu es loin de moi. Loin. Pour l'intérêt de la mission, le monde va peut-être s'arrêter.
Magnifique, un moment suspendu. Dave,
et
Quentin, lui.
Suspendu, il a pendu.
Il a pendu, mais c'était un beau moment. Quentin, bravo. Vous avez presque réussi les accords de Daniva. Dave est notre invité fil rouge cet après-midi pour évoquer les années magiques, les années salut les copains. Dave, il faut dire un truc. Vous allez monter sur scène pour la première fois à Amsterdam. Alors déjà, je suis étonné que ce soit la première fois à Amsterdam. C'est chez vous, Amsterdam, à la base.
J'ai déjà fait des petites choses, mais j'ai jamais fait un. Comme on dit à l'époque de Juliette Gréco, j'ai jamais fait un tour de chant en entier. Et là, c'est une cirque en dur, un peu comme Cirque d'hiver à Paris, qui s'appelle Les Carrés. D'ailleurs, moi, j'ai vu Oliver, comme le musical Oliver à l'époque, dans la salle. J'ai jamais chanté dans cette salle, je suis très content d'y chanter. Je suis légèrement inquiet, parce qu'aux Pays-Bas et en Flandre, c'est deux endroits où je vais donc aller fin mars, je n'ai qu'un succès.
Il va falloir tenir.
Danser maintenant Glenn Miller.
Ah oui.
Parce que ça, c'est anglo-saxon.
Oui.
Donc les chansons typiquement françaises, comme Swan et tout ça, ça les intéresse pas. Et les deux sont complets.
Comment vous allez faire?
Mais striptease.
On sera là. Ça va vraiment être une date incroyable.
Vous êtes un slip en cuir noir.
Dave, vous écoutez un petit peu les nouveaux artistes. Vous parliez de rap tout à l'heure. J'ai compris que vous n'aimiez pas trop ça. Mais par exemple, je ne sais pas, Zao de Sagazan, etc.
Évidemment, je suis ravi.
Qu'est-ce que vous aimez?
J'ai toujours celle que vous venez de chanter et celle qui est en hyphen qui chante vraiment
Santa.
Super bien. Parce que hyphen, je l'ai reçu plusieurs fois quand je présentais une émission pour France 3 pendant 4 ans. Et je suis viré parce que trop vieux. Mais, non, il y a des bonnes choses, quoi. À un moment, j'avais l'impression que les paroles, si on plante paroles, on est un peu de retour dans les années 60 parce que pas beaucoup d'intérêt. Ah. Et, parce que dans les années 70, il y avait quand même, ne serait-ce que voici les clés de Normand pour ne pas parler un peu de moi. Il y avait des chansons avec des idées. Mm-hmm. Et pas que le son, il y avait le sens. Et là, ça m'avait l'air d'être repartir là-dedans. Mais là, ça commence à avoir des choses, des chansons. J'adore écouter la radio.
À suivre. Il nous a maintes fois prouvé à quel point il était à l'aise lorsqu'il parlait de métal, de hard metal, voire même de death metal, car il est polyvalent. Mais franchement, sur Salut les copains et les yéyés, on a comme un petit doute. Bonjour Harold Barbet.
Hello, hello mal. Qui veut dire ?
Presque. Bonjour tout le monde.
Bon allez, bonjour en néerlandais, ça fait plaisir, vous avez bossé les gars, ça c'est fantastique.
L'accent était très bien.
Bah voilà, je fais des efforts.
Bravo.
Bon, rangez vos notes les amis, je vous explique les origines du yéyé façon Harold en moins de 3 minutes.
Ça nous inquiète. Peut-on vraiment parler pour 1962 d'années musicalement riches, sachant que le tube absolu du XXe siècle, Vanina, n'était pas encore sorti ? Oui, nous répond courageusement Camille Diao. Bonjour Camille.
Salut Mathieu, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui dans Rétropop 1962, l'année où une légende du rock français commence à forger son propre mythe.
Eh bah oui, parce que soyons honnêtes, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie.
L'idole des jeunes, on en parlait à l'instant. En tout cas, c'est un titre que Johnny s'auto-décerne en adaptant un air qui est venu évidemment des États-Unis.
Some people call me a teenage idol. Some people say they envy me.
C'est du mot pour mot en plus.
C'est du mot pour mot, la traduction est littérale. Et Johnny l'Américain s'est probablement reconnu en ce Ricky Nelson qui, à l'époque, tentait de concurrencer Elvis. Lorsqu'il sort sa propre version, en octobre 62, Johnny n'en est qu'aux prémices de la gloire, mais il a déjà le vent en poupe. Au printemps, il a fait un carton avec Retiens la nuit. À l'été, il a fait la toute première couve de Salut les copains, avant Dave donc. Et il s'apprête à monter sur la scène de l'Olympia avec cette reprise taillée sur mesure.
À combien tous je suis.
L'Olympia est un triomphe. Sur scène, Johnny le showman imite James Dean et lance une nouvelle danse qui fait fureur outre-Atlantique.
Dis Johnny, qu'est-ce que tu danses ? C'est drôle d'en chouette, pardon, comment ça s'appelle ?
C'est le match peut-être. En Amérique, tous les jeunes le dansent.
Et oui, vous avez bien entendu, en 1962, on danse le mashed potatoes.
Ça veut pas dire purée de pommes de terre ?
Si, ah oui, exactement. Littéralement, mais c'est aussi une danse.
C'est une danse, d'accord.
Popularisée par James Brown, donc plus ricain tumeur. Mais Johnny n'est pas le seul yéyé, évidemment, à piocher dans ce répertoire anglo-saxon. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez cette incroyable reprise d'Eddie Mitchell. Ou pas ?
On y croit à fond.
Évidemment, c'est les Rolling Stones. Alors la recette de la reprise américaine, elle peut paraître un peu éculée, mais chez Johnny, il y a ce supplément d'âme. Il a été quasiment élevé par un père américain de substitution à qui il a emprunté le Halliday. Et il y est allé en Amérique en 62. Johnny se rend deux fois à Nashville où il donne des concerts et où il enregistre un album In English, Please.
Shake the hand of a man.
Notez son accent, so Frenchy. Plus qu'une éponge, Johnny, c'est un passeur de la culture américaine. Et ça, dans la France des années 60, ça fait mouche. Les ados qui l'adulent ont grandi après la guerre, fascinés par les chewing-gums et les Lucky Strikes arrivés dans les poches des G.I.s. Son succès raconte cet appétit français pour une Amérique fantasmée. Mais il y a autre chose que Johnny est allé chercher aux États-Unis.
Vous êtes bien mystérieuse, Camille.
Il a fait les yeux avec. Et bah oui, ce qu'il est allé chercher aux États-Unis, c'est la notion même d'idole des jeunes. Teen idol. Et pour fabriquer une idole des jeunes, il faut trois ingrédients. Déjà, il faut des jeunes. Et ça, le baby-boom d'après-guerre s'en est chargé. Des millions d'enfants nés dans les années 50 forment une nouvelle catégorie sociale qu'on appelle la jeunesse, un nouveau public prêt à consommer.
Sans doute y a-t-il plus de jeunes à Paris qu'autrefois. Ils forment un monde, monde particulier qui a son style et ses modes. Ciré et bas noir sont de règle pour une fille, et talons hauts.
Deuxième ingrédient, il faut une industrie musicale structurée. Et en 62, on y est. Les majors françaises, comme Barclay par exemple, ont appris à repérer les jeunes artistes, à produire leurs disques à grande échelle et à assurer leur promo dans les nouveaux médias de masse. Ce qui m'amène au troisième ingrédient, la technologie. Le 45 tours, petit, léger, pas cher, a rendu la musique plus accessible. Et il n'est pas le seul.
Un appareil qui fut tout d'abord nommé tourne-disque, et qu'aujourd'hui l'on appelle électrophone.
Électrophone Philips, c'est encore plus sûr.
Le poste à transistor est à l'honneur car le goût de la musique ravage les foules.
Et je pourrais aussi citer les Scopitone, je connaissais pas, mais oui, c'est une sorte d'ancêtre des clips qui étaient diffusés à l'intérieur même des jukebox. Et c'est Claude Lelouch, pardon, figurez-vous, qui réalise le Scopitone de l'idole des jeunes.
Et donc ce que vous dites, c'est que Johnny est finalement moins un rebelle qu'un produit, c'est terrible.
Attention à ce que vous dites sur Johnny quand même.
Ah bah oui, mais c'est vous qui me faites dire ça.
Oui, c'est moi. En réalité, l'un n'empêche pas l'autre, surtout au début des années 60 où tout ça est encore très nouveau. Mais plus les années passent, plus la musique s'industrialise et plus les idoles des jeunes sont formatées, marketées. L'apogée de ce phénomène, ce sont les boys et les girls bands des années 90. Quand les Spice Girls débarquent, l'écosystème a bien changé. C'est l'âge des CD de titres, des mini chanifi, des clips qui tournent en boucle sur MTV.
Et alors ça donne quoi les Teen Idols aujourd'hui?
Aujourd'hui, la Teen Idol ultime, c'est Taylor Swift évidemment. Une idole qui, à l'heure d'Internet, a pu s'émanciper des griffes de l'industrie. Grâce aux réseaux sociaux, elle maîtrise son image et elle cultive un lien direct avec ses Swifties. Elle se présente comme une girl next door, une fille comme les autres. Ça vous rappelle pas un truc ça?
Il en est même qui m'envie. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie.
Et oui, Johnny a beau être l'idole des jeunes, il est aussi un garçon comme les autres. 1962-2025, la boucle est bouclée.
Dave, ça vous a touché la mort de Johnny?
Oui, évidemment que ça m'a touché. Mais ce qui est le plus étonnant, parce que je connais assez, évidemment assez bien Sylvie, on a même écrit pour elle et elle est proche. Et le garçon qui s'occupe de Sylvie, son assistant, c'est Didier Théron. S'il nous écoute, s'il dit bonjour. Et ils sont allés voir Johnny et vraiment jusqu'à la fin, ils chantaient.
Jusqu'au bout.
Juste avant de mourir, il hurle le rock and roll. Tu vois, non, c'est vraiment quelqu'un de spécial, quoi. C'est pour ça que c'est l'équivalent. Il y en a un par pays comme ça, quoi. Mmh.
Notre rédacteur en chef, Cyril Carrière, a d'ailleurs son nom tatoué dans le dos. Pour sa lunette, il ne fait confiance qu'à Optique 2000. Logiquement, il souhaite qu'on écoute en entier ce tube dont vient de nous parler Camille. Mais n'ayez pas peur, je sais que ça fait déjà longtemps que vous n'avez pas entendu Dominique A ou Jean-Louis Murat, mais vous êtes toujours sur France Inter, où on écoute Johnny Hallyday, l'idole des jeunes.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne. Mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Et une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser. Oui, le spectacle terminé. S'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis.
trop bien tout seul je suis.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il connaît mieux Gojira que Dalida, Metallica que Richard Antoneau, et pourtant, ne pouvant dire non à un cachet, il nous a dit « Ah oui, pour cette spéciale, salut les copains, bonjour Harold Barbet !»
Bonjour, ça me fait quand même un petit quelque chose de rencontrer Dave. Ah, vous êtes le chanteur préféré de ma tante. Ouais. Et puis Dave, c'est les Pays-Bas.
Je suis une tante moi-même, donc ça tombe bien.
Bah, bien sûr. Je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire. Je me suis nommé France Inter quand même, on a un devoir d'exemplarité. Je suis très content que ce soit vous qui le fassiez. Et puis Dave, c'est les Pays-Bas, Amsterdam, la drogue, la prostitution, tout ça, ça rappelle des bons souvenirs à Quentin, ça fait plaisir.
Ouais, moi aussi. Hein.
Pareil à tous, je crois. Et c'est marrant car j'ai remarqué qu'il y a des trucs qui reviennent à la mode, le vinyle, le fascisme, mais pas le yéyé. Par contre, ça non. Je pense que les t-shirts Waikiki reviendront à la mode avant le yéyé. En même temps, on a toujours un peu l'air d'un con à dire yéyé. Qui vient danser le yéyé ? Le yéyé, le yéyé. On dirait le bruit qu'on fait quand on a mangé un truc trop salé, qu'on a grave besoin d'eau. Ou une grand-mère qui tombe au ralenti en essayant de ramasser un truc par terre.
Merci mes clients, tranquille.
Bah oui. C'est pour votre fanbase, Dave, que je fais ça. Et c'est pas que le yéyé, c'est vraiment tout ce qui touche de près ou de loin à cette culture-là qui ne reviendra jamais à la mode. Le twist. Mais plus personne ne danse le twist. Quelle ironie d'ailleurs, Dave. Tous ceux qui dansaient le twist à votre époque ne peuvent plus le faire aujourd'hui sous risque de se péter le col du fémur. Donc, la banane, terminée la banane. Même la coupe mulet est revenue à la mode avant la banane. Quand j'étais petit, il y a un moment où le mulet est revenu à la mode. Époque MacGyver, on voulait tous un mulet. Moi, ma mère m'a jamais laissé avoir un mulet. Elle m'aimait beaucoup trop pour ça. Avoir un mulet en CP, ça pouvait changer ta vie. Je me rappelle, à 6 ans, il y avait un gars, Anthony Marek, le petit cassos de la classe. Il avait un mulet, on aurait dit qu'il avait une écrevisse morte sur la nuque. Et le jour où il arrive en classe avec son mulet, c'était notre héros. On était là, waouh, Anthony, t'as un mulet, trop cool! Et ça aurait totalement pu le réhabiliter. Le problème, c'est qu'il chiait constamment dans son froc. Donc, quand ça veut pas. Moi, j'aurais bien aimé avoir 20 ans en 1962, mais on peut pas choisir son époque. Rappelons-nous Marty McFly, quand il voyage dans le temps et qu'il a 20 ans en même temps que ses parents, eh bien, il est à deux doigts de baiser sa mère. Oh, pas cool!
C'est vrai.
Moi, ce qui me fascine quand je regarde les archives de jeunes dansés dans les années 60, c'est qu'on se dirait que ça. Enfin, on se dit que ça devait quand même être vachement sympa d'être. Faudrait qu'on essaye, nous, un jour, pour voir. Ou peut-être juste qu'il faisait mieux semblant que nous d'être heureux. Franchement, quand on écoute Dick Rivers, il est pas normal. Ce sont, clairement, il s'est coincé quelque chose, il y a un truc qui va pas, quoi. Mais ils ont tous l'air heureux. Ils étaient insouciants. C'est le qualificatif qui reste de la jeunesse de l'époque. Insouciant. Pourtant, il n'y avait pas que des bonnes choses en 62. La crise des missiles de Cuba, la guerre d'Algérie, et j'en passe. Alors pourquoi cette insouciance? Et qu'est-ce que c'est vraiment l'insouciance? Définition dictionnaire de l'insouciance. Qui ne se préoccupe de rien. Est-ce que ça serait pas la définition polie de s'en battre les couilles? Genre, autant de danse à base de coups de hanche. Est-ce que les années yéyé, ça serait pas l'âge d'or du battage de couilles général? Et quel meilleur moyen de s'en battre les couilles que de se les secouer vigoureusement sur l'intérieur de nos cuisses? C'est quoi ce claquement? Ah bah ça, c'est l'impact de mes balls sur mes cuisses, ça s'appelle du battage de couilles. Oh mais trop bien, mais moi aussi je peux m'en battre les couilles. Ah mais je t'en prie, venez les copains, on s'en bat tous les couilles. Couillou, couillou, on s'en bat les couilles. Pa, 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 pa. Couillou, couillou, on s'en bat les couilles. Na, 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 je m'en bats les couilles. Ouais, c'est bon, Dick, on a compris. Je crois qu'un courant musical et culturel comme celui-ci ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui, car les gens sont trop désœuvrés et malheureux. Sauf si on va chez Dave à Amsterdam. Mais là, ça voudrait dire que notre seule chance de retrouver le sourire, c'est de consommer de la drogue en masse. Et si finalement, notre seule chance d'être à nouveau heureux, ça serait pas de tous s'en battre les couilles. Couillou, couillou, on s'en bat les couilles. Ça reste dans la tête, hein.
Oui, mais attention, Harold, à ne pas salir Twist à Saint-Tropez, qui est quand même mon hymne de l'été.
Je m'en doute.
Et si vous voulez être invité à la maison un jour, il ne faudra pas chanter « Couillou, couillou, on s'en bat les couilles ». Bien respecter les paroles, twist à Saint-Tropez. Merci Harold Barbet.
Invité à la maison.
On vous retrouve très bientôt. Oui, vous-même, vous êtes déjà venu.
Ah, je suis seul.
Très bien, voilà.
Moi non, perso.
Mais ça viendra maintenant, ça viendra, ça viendra. Ça fait que 3 ans qu'on se connaît. On se retrouve très bientôt, Harold, dans Zoom Zoom Zen. Sur scène, le 5 mars à Toulouse, les 14 et 15 mars à Genève. Et à partir du 19 mars, tous les mercredis soirs, au métro, c'est-à-dire.
Au métropole.
Ah, au métro.
J'ai marqué métro, moi.
Oui, vous avez marqué métro, sans préciser quelle ligne. Donc vous
l'entendez. D'accord, c'est pour ça.
Merci beaucoup Dave de nous avoir accompagnés cet après-midi sur les traces des années. Salut les copains. Et comme on est très écoutés, vous le savez, aux Pays-Bas, c'est important de le rappeler, vous serez en concert à Amsterdam le 31 mars.
Absolument.
Tournée dans les Flandres aussi. Et puis si Amsterdam ça vous fait trop loin, vous serez à Cabourg le 29 mars et à Lille le 30.
Quelle vie.
Kenby, toujours sur la route et toujours avec Vanina. Alors merci encore et merci à tous les amis Manon, Camille, Harold, Quentin. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Selim Guéribi. La semaine prochaine, notre rédacteur en chef prononce ses quartiers d'hiver à la neige. Nous ne serons pas avec vous en direct, mais vous nous retrouverez en format best-of, un condensé absolument ébouriffant de nos meilleures émissions. Et je termine avec une annonce ô combien importante, l'occasion d'une vie, être juré du prix du livre Inter. Ce serait dommage de rater ça. Donc si l'aventure vous tente, vous écrivez soit sur le site de franceinter.fr, soit un courrier à l'adresse suivante, France Inter, prix du livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. Et bon week-end à tous, comme dirait Manon, on se retrouve lundi en 8. Zoom, zoom, zen.